les podcasts d'AFDS.TV, aux frontières des séries. Une émission de Sarah Sepulcre et Alexandre Marlier. Les dossiers d'AFDS.TV, Sarah Sepulcre, Alexandre Marlier.
Série lancée en 2008 par Canal+, elle se compose d'une saison de 8 épisodes jusqu'à présent. Elle fut diffusée à coup de 2 épisodes par soirée pendant 4 semaines sur la chaîne cryptée. Créée par le duo Duringer et Brandolo, cette série se penche sur un sujet jamais traité dans une série de manière si fine et encore moins dans une série française, l'univers des Golden Boys, des traders, de la bourse dans les années 90. L'histoire naît au Palais Brongniart, à savoir la bourse de Paris. Pour nous en parler aujourd'hui, Stéphanie Chavagne.
Et oui, donc cette série qui est assez intéressante, mais c'est surtout son sujet qui est intéressant. C'est-à-dire que Canal+ a devancé tout le monde en diffusant cette série sur l'univers viscéral de la bourse. Oui, parce que c'est sorti un an avant la crise qui nous touche de plein fouet actuellement. Donc voilà, l'histoire de cette série en deux mots, parce que je ne suis pas sûre que les auditeurs l'aient vraiment vue. On rentre dans l'univers donc de la bourse via Pierre. Pierre, c'est un bel homme de la trentaine, qui semble avoir tout pour lui, respecté par ses confrères du Pit. Le Pit, c'est l'endroit où se déroulent les négociations boursières. Un homme aimé par sa femme, qu'il voit rarement, puisqu'elle travaille comme biologiste dans une autre ville éloignée de Paris, on ne sait pas exactement où c'est. Il est apparemment très riche et comblé de réussite dans son métier. Mais voilà, un jour, tout s'effondre. Pourquoi ? Le spectateur va le découvrir en acceptant d'entrer petit à petit dans ce monde où l'adrénaline, l'amour du risque, le besoin d'argent dominent. Via Alex, la femme de Pierre, les téléspectateurs vont doucement et par paliers accéder à un monde jamais montré au public avant. Alex, donc la femme de Pierre, est une femme de caractère et sous ses airs fragiles, la rage monte en elle. Elle veut découvrir qui était son mari et elle décide de s'en sortir en passant par les mêmes épreuves que lui. Donc en travaillant à la Bourse de Paris. Et c'est comme ça qu'elle va vraiment comprendre qui était Pierre et parallèlement, c'est à travers cela que le téléspectateur va justement comprendre ce qui anime un homme à parier, à jouer et à se perdre dans un monde irréel. Donc entrer dans ce monde se mérite, c'est ce qui ressort de la série. Je dirais qu'il faut vraiment 4 épisodes pour se sentir en phase avec cet univers. Au début, on a du mal nous-mêmes à comprendre et c'est fait exprès. C'est-à-dire que la femme de Pierre, Alex, c'est via elle qu'on va découvrir l'univers, elle n'y connaît rien. Et donc au début, on a du mal à comprendre ce qui se passe. Et c'est au fur et à mesure des épisodes qu'on va pouvoir entrer dans le monde. Surtout que c'est un monde qui est difficile à percevoir, à comprendre. Il y a pas mal de mots, d'expressions spécifiques. Et franchement, c'est pas hyper facile à cerner au tout début. Après, bon, on rentre assez vite dans le sujet. Mais avant vraiment de comprendre les rouages, comment ça fonctionne, le type de personnage, etc. Il faut savoir s'accrocher.
Le premier épisode, en tout cas, est très obscur. Il n'y a rien d'expliqué. On vit vraiment au sein des traders. On comprend rien du tout. Mais justement, ça permet au téléspectateur de se perdre. Et si le téléspectateur fait l'effort d'aller jusqu'au deuxième épisode, où là, on va rentrer par l'intermédiaire du personnage joué par Laure Marsac à l'intérieur de cette vie de trader qui est vraiment une vie remplie de codes, on arrive vraiment à pénétrer dans cet univers qui a l'air complètement obscur à partir du premier épisode.
En fait, c'est un peu comme Urgence au début dans le premier épisode où on entend tous ces mots bizarres qu'on n'avait pas l'habitude d'entendre.
Sauf qu'on peut comprendre plus facilement. Oui. Ici, personnellement, j'aurais vu l'épisode en crypté puisque c'était sur Canal+, j'aurais autant compris. Tellement c'est vraiment très obscur, il faut vraiment y connaître énormément en bourse, surtout que la bourse ne se vit plus comme elle se vivait à l'époque, puisque désormais la bourse ce ne sont que des ordinateurs, il n'y a plus des hommes qui sont dans le pit, qui crient pour acheter des actions, c'est une image totalement révolue ça, donc... Même les gens qui pourraient s'y connaître en bourse aujourd'hui, qui n'ont pas connu cette période-là, pour eux, ce serait totalement obscur.
C'est audacieux, mais c'est légèrement suicidaire à l'heure actuelle quand on sait qu'une série est jugée sur son premier épisode, voire ses 2 premiers épisodes.
Tout à fait, mais je crois qu'il y avait Canal+ pour pouvoir tenter ouais. Ça.
Et c'est quelque part une richesse, parce que ça leur permet de faire quelque chose de tout à fait différent de ce qu'on peut retrouver, évidemment, déjà dans les séries françaises, mais surtout dans les séries américaines. Parce qu'ici, pour pouvoir apprécier vraiment la série, il faut le vouloir. Il faut faire l'effort d'aller plus loin et de mériter d'être dedans. Et en même temps, quelque part, ça se mérite et ça vaut la peine de le faire parce que vraiment, ils nous font accéder à un univers qui est réaliste, donc c'est pas du tout inventé, et qui est vraiment intéressant parce que c'est vraiment un univers cloisonné auquel je n'avais jamais eu de contact.
Ton carton, t'as tes fiches ?
Oui.
T'as un stylo? Il marche? Tiens, prends-le. Celui avec lequel j'ai commencé.
Merci. Merci, Raphaël.
Mesdames, messieurs, s'il vous plaît.
J'y vais.
Bien. Je tenais ce matin à vous annoncer l'arrivée de 4 nouveaux négociateurs indépendants de parquet. Vous savez que malheureusement 4 NIP ont été suspendus suite au violent mouvement de marché des jours précédents. Je vous présente donc Antonio Fonseca, 707. Bernard Forget, 711. Robert d'Algeria, 720. Et enfin, Alexandra Etcheverry, notre première femme NIP.
Bravo !
Je vous demande de les accueillir bien chaleureusement.
Ce n'est qu'un début.
Putain, c'est la femme d'Etcheverry. Elle nous l'a bien caché, cette salope.
Ben moi, elle me devait de l'argent, Etcheverry.
Moi, elle me devait des fortunes.
Et regardez la tronche de Laetitia. On a l'impression qu'elle s'est pris un Boeing en pleine gueule.
C'est vrai que la bourse, qu'est-ce que c'est? C'est du bruit, c'est des gens qui hurlent, donc le son est dominant, mais il faut voir toute la gestuelle et surtout le regard, et tout se joue dans la gestuelle des personnages, et toute leur vie dépend d'un moment où quelqu'un l'accepte d'acheter, accepte de vendre, et ils sont complètement perdus, et ils se jettent à cœur ouvert dans cette fosse, et c'est vraiment impressionnant.
Et c'est un langage très particulier aussi, puisqu'ils parlent avec des gestes, mais c'est totalement incompréhensible pour quelqu'un qui n'y connaît rien.
Effectivement, et ça c'est pour ça par exemple que l'épisode 1 et même l'épisode 2, je dirais même limite l'épisode 3, n'est pas toujours évident à comprendre. Et en fait, on va voir via Alex qui va apprendre ses gestes, etc., le sens réel. Et c'est dans l'épisode 6 qu'on va comprendre tous les petits tics qui s'organisent entre les différents traders et comment ça fonctionne réellement. Parce qu'en fait, avant, on n'a que des brides. Et c'est vraiment, je dirais, que dans l'épisode 6 où on comprend comment ça se passe.
Oui, quand je disais que ça s'éclaircit à partir de l'épisode 2, il faut savoir que dès l'épisode 2, on commence à suivre l'enquête d'Alex sur la mort de son mari. Alors que dans le premier épisode, on ne voit que la bourse. C'est-à-dire qu'on est dans cet univers complètement opaque dans lequel on n'arrive pas à rentrer. Dans le deuxième épisode, on peut s'intéresser justement à son enquête, même s'il y a encore beaucoup de choses qui sont totalement incompréhensibles, mais on a quand même quelque chose à suivre, chose qu'on n'avait pas dans le premier épisode.
Effectivement, donc voilà, je voudrais vous parler justement à ce niveau-là des éléments importants qui portent cette série. Donc comme on l'a déjà dit, on est très très loin des séries françaises, mais on est aussi assez loin des séries américaines, parce que non, c'est pas quelque chose qu'on pourrait retrouver facilement dans une série américaine. Ici, par exemple, on reconstruit un monde tel qu'on pourrait le faire dans un film. On n'est pas dans un univers de série où on établit très rapidement des clichés, des types de sociétés. Ici, ça prend du temps d'instaurer le décor. On est en 90 et ils vont tout respecter. Ils vont respecter le fait que les ordinateurs à ce moment-là sont complètement désuets, le fait qu'il n'y a pas de portable, la manière de vivre aussi. C'est des gens très riches, mais le rapport à la richesse, le rapport aux belles maisons, etc., était tout à fait différent en 90. On en jetait à mort. C'était pas la même chose, et ça se ressent dans la série.
On a cette particularité qu'on retrouve dans les dernières séries récentes, c'est qu'on veut coller à l'actualité de l'époque, puisqu'on a quand même un événement qu'intéressant qui vient s'interposer dans l'histoire.
Ben, l'élément, voilà, et qui est quelque part le début de l'histoire, hein, c'est le début de la guerre du Koweït, le moment où Saddam Hussein entre au Koweït pour reprendre ou prendre le pétrole, selon les interprétations.
Et cette guerre, on va la suivre à la télévision en même temps que les traders et en même temps que les personnages de l'histoire.
Voilà, en fait, tout va s'organiser autour de ça. Hein. C'est-à-dire que la série va commencer avec l'annonce donc, du début de la guerre, qui va faire que Pierre, justement, lui qui n'était pas au courant que cette guerre allait être déclarée, ben, va miser un maximum, va acheter, et puis il va tout perdre. Et c'est ça qui va être l'élément déclencheur, ou en tout cas l'élément visible au début de la série, déclencheur de sa mort. Maintenant, suicide, mort, ça, le mystère reste entier, et je ne vais pas le trahir. D'autre part, ici, on entre évidemment dans un monde très spécifique. On l'a déjà dit, la bourse a son vocabulaire, son univers. Mais alors, on entre aussi dans un suspense impressionnant. C'est de l'adrénaline à 100%. C'est suivre des gens qui, toute leur vie, se laissent guider finalement par le jeu. Ils jettent leur vie là-dedans. Les mots sont pas assez forts que pour décrire l'ambiance dans laquelle on rentre. Parce que vraiment, les réalisateurs ici arrivent à te faire entrer dans un monde incroyablement dur et directif par rapport à l'homme qui ne sait pas vraiment réagir par rapport à ces phénomènes qui sont si, si forts.
J'aime bien ton parallèle en disant que c'est un monde de jeu, parce qu'effectivement, je crois qu'on aurait pu faire une série sur un casino et les dessous d'un casino, on n'en était pas très loin.
Oui, oui, c'est sûr. Mais ici, je trouve que c'est surtout la manière dont c'est abordé, c'est vraiment impressionnant. Maintenant, un autre élément qui, finalement, je pense, est l'élément, après le fait que ce soit la bourse, que ce soit l'intrigue, est l'élément essentiel de cette série et que je trouve vraiment génial, c'est les personnages. C'est-à-dire qu'on n'a absolument pas, en tout cas moi j'ai pas retrouvé ça, de personnages clichés. On a des personnages très spécifiques, des personnages ambivalents, des personnages vraiment étonnants. Maintenant, c'est sûr que l'univers du trader fait qu'on peut justement faire entrer ce genre de personnages dans cette série, parce qu'on n'est pas dans un univers normal, les gens sont différents, mais alors c'est vraiment impressionnant. Par exemple, le fameux Pierre, qui au début est le gars que tout le monde devrait aimer, c'est comme ça qu'on le présente dans sa relation avec sa femme, etc. Il aime sa femme, mais en même temps, elle l'agace. Et c'est pas caché. Et il la trompe et c'est pas caché. Et après, on va le savoir, sa femme va le savoir, mais elle va toujours l'aimer. Ça va toujours rester le gars idéal alors qu'il la trompait. Donc il a ses défauts. C'est pas le beau gosse comme on peut l'imaginer. Et on a d'autres personnes comme ça. Par exemple, le beau-frère de Pierre. Eh bien, à un certain moment, il joue le rôle du beau-frère qui soutient la veuve, la femme de Pierre. Mais il y a d'autres moments où c'est le Judas. Il y a vraiment des ambiguïtés comme ça.
Les personnages sont pas du tout manichéens, en fait.
Pas du tout. Et puis, c'est des personnages originaux. Il n'y a pas de stéréotypes au niveau des relations. Et c'est vraiment là-dedans qui jette un pavé et qui, je pense, est l'élément le plus innovant dans cette série.
C'est aussi très déstabilisant pour le spectateur, hein, finalement. Parce qu'on l'a vu notamment avec la série Reporter, dont Sarah, tu nous avais parlé il y a quelques temps. C'est des séries très particulières qui nous emmènent dans des univers dont on n'a pas l'habitude d'avoir un tel aspect. Et ici, c'est pareil, quoi. Donc, je crois qu'on est vraiment dans la même vague de séries créées par Canal+, avec le même intérêt pour des histoires très, très originales et des univers complètement différents de ce qu'on a pu voir ailleurs.
À ceci près que dans Reporter, on a quand même des clichés ou des stéréotypes qui peuvent coller à des personnages journalistiques, c'est-à-dire le fait diversier, gratouilleur, chercheur de merde, le présentateur un peu imbu de sa personne, etc. Et que là, apparemment, ce n'est pas du tout le cas. Donc elle doit être déstabilisante en puissance.
En tout cas, moi, c'est comme ça que j'ai ressenti. Peut-être qu'il y a des personnes qui pourraient y retrouver des choses récurrentes, mais pour ma part, j'ai vraiment été étonnée par cela. Ce que je voulais dire aussi, c'est que les personnages sont intéressants, mais les acteurs aussi. Donc il y a dans cette série énormément d'acteurs, vraiment il y en a beaucoup vu qu'on a tout l'ambiance de la bourse. Il y a pas mal, je dirais une quinzaine d'acteurs qui ressortent vraiment de la série. Je vais pas évidemment les citer tous parce que sinon on peut y passer des heures. On va parler de Pierre, finalement on va le voir très peu, hein. Pierre c'est lui qui mène la série mais finalement c'est pas autour de lui que ça se passe. Pierre est joué par Thomas Jouannet, donc pour la partie dans laquelle il est présent, il incarne bien son rôle. Alors maintenant j'aimerais parler d'autres rôles qui sont pour moi un peu plus intéressant, c'est par exemple Raphaël, qui est l'ami de Pierre. Tout va commencer parce que Raphaël est au courant que la guerre va commencer au Koweït, et il ne va pas prévenir Pierre, donc il va savoir, et il va voir Pierre sombrer, et il va le laisser faire, alors que il se sent coupable, mais il sait que s'il le dit, il casse une règle du monde de la bourse. C'est-à-dire que c'est ça aussi qui fait que les relations sont très ambiguës, c'est qu'ils sont amis, finalement ils sont obligés de rester entre eux parce qu'ils ont un monde très à part, donc ils sont très liés, mais à côté de ça, une fois qu'ils sont sur le terrain, sur la bourse, ils n'ont aucune pitié l'un pour l'autre. Il y a des fois où ils s'accordent quand même des petits privilèges, ils cèdent, mais ils n'ont aucun mal à voir à côté d'eux quelqu'un qui souffre et qui se laisse mourir, parce que c'est carrément ça, il y en a qui vont vraiment connaître une déchéance incroyable, et dans ces cas-là, ils regardent, ils en sont conscients, mais ils font rien. Et donc ce Raphaël joue l'homme coupable, qui se sent coupable pendant toute la série, et c'est pas mal parce que via lui, on va pouvoir un peu plus aller dans le psychologique du trader. comment on sent quand on joue, etc. Ensuite, on a Jules, qui est un des amis de Pierre, qui est joué par Dan Herzberg, et qui joue le gars éternel adolescent, parieur, insouciant, mais qui a besoin de se mettre dans des situations de grands risques. Il apporte quelque chose de dynamique dans la série, il est vraiment pas mal. On a Étienne Chapman, qui est joué par Gérald Laroche, et qui est en fait le patron de Raphaël, donc Raphaël, celui qui a trahi son ami, et qui va en fait un peu aider Alex à s'imposer donc, dans ce monde, et il a aussi un rôle ambigu qui est assez intéressant. Édouard Montout, qu'on a connu dans Taxi, il joue ici le rôle de Ziggy, et franchement c'est un rôle très agréable, il le joue très très bien, c'est vraiment un bon rôle, ça lui va bien. Bon, il a son côté un petit peu comique, etc. Mais bon, c'est limité puisqu'il est dans un univers qui n'est pas comique, mais il a un rôle plus léger et ça permet de relaxer un peu l'atmosphère, et franchement c'est une bouffée d'air dans cette série. Dernier personnage, Alex. Ça, je peux pas ne pas en parler. Donc, c'est l'héroïne, c'est via elle qu'on va découvrir les différents personnages. Alex, donc, est jouée par Laure Marsac, comme tu l'as dit plus tôt. Vraiment, c'est une bonne actrice, c'est un personnage intéressant. Elle a quelque chose de british, c'est une belle femme. Elle peut être faible, elle peut être forte, et franchement, chapeau.
Bien, tout le monde est là. Monsieur, je n'irai pas par quatre chemins. Notre ambassade à Bagdad croit très fermement que d'ici quelques jours, l'Irak va envahir le Koweït. De très importants mouvements de troupes se déplacent vers le sud et se massent à la frontière. Et d'autre part, nous savons avec certitude que l'ambassadrice américaine en Irak a signifié à Saddam qu'il pouvait entrer au Koweït sans aucune intervention américaine. La date n'est pas encore fixée, mais il semblerait que ça soit dans la semaine qui vient.
C'est confirmé.
Il faut donc absolument protéger nos arrières et anticiper les conséquences de cette modification de l'équilibre géostratégique dans les pays du Golfe. Chapman, c'est à vous.
L'invasion va semer la panique sur les marchés. Tout le monde va vendre. Les cours vont s'effondrer. Il faut vendre avant les autres pour protéger nos intérêts et ceux de nos amis Koweïtis. On fera ça discrètement, par petite quantité, de manière à ne pas affoler les cours avant l'annonce officielle. Il va de soi que nous avons besoin de votre accord pour déclencher les opérations chez nous.
Aucun problème.
Nous avons déjà eu l'occasion d'apprécier votre efficacité et votre discrétion.
Merci.
Vous vous rendez compte de ce que vous nous demandez de faire ?
Non. La vraie question est, est-ce que vous vous rendez compte de ce que Saddam Hussein est en train de faire ? Il veut mettre la main sur le pétrole koweïtien, terre ancestralement irakienne, il veut récupérer son bien. Un quart de notre économie dépend du pétrole irakien. Si Saddam rentre au Koweït, nous allons connaître une crise sans précédent.
Ce que vous nous demandez de faire, c'est de quitter le bateau avant la tempête.
Il regarde couler tout le monde autour de nous. C'est la seule solution. Vous en avez une autre ?
C'est une mesure de prudence économique indispensable si nous voulons éviter le crash. Point final, Raphaël.
Excusez-moi, mais je crois que mes amis m'appellent. Vous savez, ceux qui vont couler.
Mais nous allons tous dans le même sens, Raphaël. Je suis très étonné par vos états d'âme. Plus qu'étonné, d'ailleurs. Inquiet. Inquiet sur votre capacité à garder le silence.
Ça veut dire quoi exactement, ce que vous insinuez ?
Ça veut rien dire. Tout le monde ici te fait confiance. Il n'y a pas de problème. Vas-y, t'es le héros du jour. Vas-y.
M'inquiète un peu.
Soyez pas inquiet, c'est un roc. Et comme Alexandre le Grand, c'est un guerrier.
Il est homosexuel, ça me rassure.
Je dirais qu'au niveau de la construction, c'était un pari risqué de développer ça sur 8 épisodes, parce que finalement, on pourrait s'imaginer que dans un film, on pourrait reprendre toutes les informations, partir de la guerre du Koweït et puis voir jusqu'à la fin. Bon, ça a des avantages, ça amène à des choses positives. Et ça amène à des choses négatives. Alors, on commence par le positif. Le positif, c'est que, comme je l'ai dit plus tôt, on arrive vraiment à rentrer dans le monde de la bourse et à s'y imprégner. Et quand on est dedans, on a envie d'en avoir encore. Et on arrive à découvrir ça de manière plus forte. Le côté négatif, c'est le côté suspense. C'est-à-dire que des fois, c'est quand même un peu long. Et que si on ne fait pas l'effort de vouloir aller plus loin, on se laisse vite lasser et mettons rentrer du boulot, être fatigué. Des fois, on n'a pas trop le courage de
suivre. C'est un truc qu'il faut regarder l'esprit clair, ça c'est sûr. C'est pas un divertissement de fin de journée. Il faut avoir le cerveau allumé pour pouvoir regarder la chose et pour pouvoir avancer.
Et les gens en général aiment bien ou pas ? Parce que finalement, c'est ça qui compte, c'est un peu comment c'est reçu.
Mais j'ai regardé sur le forum de Canal+, et il y a vraiment pas mal de très bonnes critiques. Maintenant, c'est Canal+ qui gère les éléments du forum, donc vraiment, ça y joue. Et puis, il y a quelques-unes qui sont très négatives, des gens qui ne sont pas rentrés dedans, donc ils disaient « Moi, j'attendais ça, j'avais vu le lancement, ça m'avait l'air bien, etc. » Et là, je suis déçue, c'est trop lent, etc. Et donc, c'est des personnes qui, à mon avis, n'ont pas su rentrer dans le suspense. Par contre, il y en a d'autres, des gens qui, par exemple, travaillent en bourse. Moi, ça me donne envie d'aller chez mon pote qui a Canal+ pour le regarder, et on regarde ça ensemble, et franchement, on aime bien et on attend la saison 2 pour voir ce que c'est.
Il faut savoir que l'audience n'a pas forcément suivi énormément.
Et puis, je pense que quelque part, c'est un peu dommage qu'il l'ait sorti l'année dernière. Bon, maintenant, c'est sûr qu'il n'aurait pas pu prédire ce qui allait se passer, parce que je pense que s'il l'avait sorti maintenant, ça aurait eu beaucoup plus de succès, parce que maintenant, il y a vraiment une volonté, une envie des gens de savoir qu'est-ce qui se passe dans ce monde-là, et comment ça se fait qu'on en est arrivé là, et comment ça se fait qu'il y a des gens qui ont perdu des sommes incroyables. Je pense que s'ils avaient pu se soutenir de l'actualité, des faits divers, des personnes qui ont investi des milliards et qui ont tout perdu alors que c'était des personnes importantes, je pense que là, la série aurait eu un pied beaucoup plus fort dans l'actualité. J'avais envie de dire aussi que finalement, l'accès à l'univers de la bourse, il se fait grâce à quoi ? Grâce au réalisme. Et le réalisme tient à quoi ? Il tient au vocabulaire utilisé, mais ça on l'a déjà dit, à la reproduction des lieux aussi, parce qu'ils ont vraiment reproduit l'endroit donc, où se passaient les négociations, donc le PITS, ils ont reproduit ça comme la Bourse de Paris, ils se sont inspirés des archives, donc l'endroit est le même. Et au niveau des gestuels, etc., ils ont aussi voulu absolument retrouver exactement ce qui se passait à ce moment-là. Donc via Bruno Petit, qui est le coproducteur et co-scénariste, qui lui-même avait travaillé 12 ans en bourse avant, donc il savait exactement ce qu'il s'agissait, et bien ils ont surcréé cet univers comment ? Bruno Petit a ramené des collègues d'avant, ses collègues ont coaché les acteurs mais aussi les figurants, les comédiens et figurants ont dû s'entraîner dans le pit avec justement toutes ces personnes qui avaient travaillé avant. Et par exemple,
ça représente quand même une quarantaine de personnes qui ont dû apprendre tous ces gestes un peu comme s'ils apprenaient le langage des signes au final.
Exactement, c'est exactement ce genre de choses. Et par exemple, l'actrice Laure Marsac disait sur le site de Canal+, qu'à force de répéter, il y a des journées, elle avait plus de voix tellement elle devait gueuler au-dessus des autres parce qu'ils sont pas gênés à gueuler pour que vraiment on y soit, quoi, qu'on le ressente et qu'on le vive. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui nous transcende quand on regarde la série. On ressent un sentiment, une impression de jamais vu, quelque chose que moi, en tout cas, j'avais jamais perçu avant. Et les personnes avec qui je l'ai regardé m'ont dit pareil, quoi. C'était quelque chose qui les avait marqués. Donc pour ça, j'invite tout le monde à regarder, ça vaut vraiment la peine de voir ce que c'est. Une dernière petite chose,
oui.
Vous le savez, moi la musique ça me plaît, et dans cette série, la musique elle est vraiment 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 intéressante. Elle n'est pas là très souvent, mais quand elle est là, elle a un rôle important, et vraiment c'est des musiques qui sont vraiment belles. Mettons par exemple, dans le premier épisode, on voit Pierre en voiture seul, et la musique qui accompagne cette scène et la façon dont c'est filmé, c'est génial. Il y a eu un travail au niveau de la musique, ils ont évidemment repris des musiques des années 90, et ça donne tout... un impact encore important sur la série.
Retrouvez Aux frontières des séries sur le web www.afds.tv.